France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de France Musique. Il a tout fait cet homme-là, il a créé des labels discographiques, il a enregistré de la musique, a écrit des livres, voyagé partout, créé des festivals, des centres et des lieux. Il a rencontré des personnes, il a 3 vies, 4 vies, 5 vies en une seule. Jusqu'à 13h, nous sommes avec Alain Paquier. Une reconstitution, une invention, on ne sait jamais, d'un Corpus Christi à Cusco, une réalité qu'on aurait tellement oubliée, qui nous reviendrait, qui nous ressauterait musicalement au visage. C'était Gabriel Garrido qui nous faisait ceci, le porter au disque, il y a une toute petite dizaine d'années, pour le label K617. Bonjour Alain Paquet.
Bonjour Lionel Sparza.
Je ne sais jamais pourquoi vous prendre, vous, l'angle de l'animateur, du voyageur, de l'inventeur, de celui qui crée des disques et d'autres choses, mais on pourrait prendre celui, tout simplement, qui fait des rencontres, et qui rencontre un jour Gabriel Garrido. Est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre-là? Et c'était quand d'ailleurs?
C'était en 1991. On était en train de parler très sérieusement de l'année suivante. C'était l'année commémorative de la rencontre des deux mondes. Ouais. Et puis, il y avait tout ce travail qu'on faisait déjà au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine. Et je me disais, mais quand même, il faut un latino pour raconter cette histoire. Parce que nous, on est entre Papis et Parpaio, le nord et le sud. On n'a pas tout, quoi. Et on me prévient que Gabriel Garrido, que j'avais connu au Festival de Sainte, où il jouait de la percussion dans la bande à Piguet, était complètement là-dessus et qui faisait un concert à l'abbaye de Romainmôtier, pas très loin de chez nous, frontière franco-suisse. Alors on s'y précipite et on assiste à un concert, le premier concert de Gabriel Garrido auquel j'assiste. C'était terrifiant, comme un désordre, une espèce de foire sonore invraisemblable.
Qui était contrôlé un peu ou non? Il hésite, donc ça veut dire non.
Non, c'était... les latinos, nous la différence, les musiciens, on est propres sur scène, ça se passe bien. Et puis après on se laisse aller, voilà, après le concert, on se laisse aller. Gabriel Garrido, il commence par l'après pendant le concert. Généralement, d'ailleurs, ça vient de s'entendre, c'est magique, justement, c'est formidable. Et voilà, on s'est dit, j'étais avec Lionel Lissot, qui a été le cofondateur des Chemins du Baroque et de K617, et je lui ai dit, bon, ben, c'est avec ce type qu'on va faire, il n'y a pas d'autre. Et il me dit, d'accord, il va y avoir du travail. Et
oui, il va y avoir du boulot, il s'est rendu compte.
Et ça a été nos souvenirs les plus grands, les plus extraordinaires, avec ce type complètement magnifique, qui enregistre pour nous, d'ailleurs, actuellement.
Ah oui. Et quoi donc d'ailleurs aujourd'hui?
Des œuvres de l'Italien Mazzocchi du 16e siècle. Et ce qui était absolument extraordinaire, c'est que ce que Garrido, en tant que latino, a rapporté dans sa vision sur notre langage de la Renaissance et du pré-baroque, Monteverdi, le résultat est absolument inouï. Il a apporté un regard complètement nouveau.
C'était de l'aller-retour, vraiment.
Complètement. C'est l'homme des deux cultures qui a réussi une très belle synthèse.
Enfin, s'il a réussi, c'est parce qu'il a pu aussi entrer en contact avec des gens comme vous, qui lui ont donné le moyen de faire des choses, un label, que vous mettiez en quelque sorte un peu à sa disposition aussi.
Alors, effectivement, parce que là, je crois qu'il y a eu une utilité, parce que quand il a commencé à enregistrer avec nous la musique latino-américaine, tout le monde a dit, bon, voilà, un type qui est pas connu, qui émerge sur le marché, il a trouvé son créneau médiatique, de marketing, mais est-ce qu'il sait faire autre chose? Et là, on a attaqué tout de suite avec l'Orfeo, et j'avoue que quand j'ai entendu le premier montage de l'Orfeo, je me suis dit, ou on se fait jeter, ou on gagne tous les prix. Et on a gagné. Mais vraiment, à l'époque, c'était quelque chose d'assez provocateur, presque révoltant par moments, dans l'instrumentation et dans les tempi.
Parce qu'on n'avait jamais fait Monteverdi, peut-être avec même côté Renoncourt, avec autant de liberté, c'est ça?
Non. Non, non, mais c'est là que le Sud joue contre le Nord. Quand même, pour cette musique, on n'y peut rien, quel que soit le génie d'Arnoncourt.
Vous avez choisi de nous apporter Alain Paquet, un autre extrait d'un disque de Gabriel Garrido fait avec vous pour K17, Les Vêpres de Monteverdi. Vous nous direz juste après pourquoi.
Thank you.
Enregistré il y a une bonne quinzaine d'années par Gabriel Garrido et ses troupes, ici réduites, parce que c'était un extrait du Magnificat, lui-même extrait des Vêpres de Claudio Monteverdi, à juste deux violons qui se répondent, une voix qui vient d'ailleurs. Pourquoi cet extrait-là, précisément, Alain Paquier?
Ça renvoie à plusieurs choses. D'abord, une actualité qui est que nous allons préparer cette œuvre qui va être celle pour le concert de clôture du Festival de Sarrebourg le dimanche 12 juillet prochain, d'une part. Et puis, d'autre part, parce que j'ai eu quelques questions indiscrètes qui m'ont été posées sur quel était le musicien que j'admirais, quel compositeur j'aimais le plus, et quels souvenirs. Et Monteverdi, c'est tout à la fois ça, c'est notre actualité, donc avec le Festival de Sarrebourg. C'est Gabriel Garrido qui a laissé sa marque dans cette musique. Et puis, paradoxalement, ou de façon assez étrange, c'est un film.
De Bresson,
voilà, Mouchette, que j'ai dû voir quand j'étais tout gamin, et alors que la musique baroque n'existait pas pour moi, alors Monteverdi, c'est pas la peine d'en parler, et il y a cette scène absolument bouleversante à la fin, où une enfant qui a été déshonorée dans son village par un rustre rejeté par tout le village, et elle va voir une femme qui est une espèce de messagère de la mort qui lui offre une robe de mariée, comme une robe de mariée, et l'enfant va s'en revêtir et elle va au bord d'un étang et elle roule jusqu'à l'eau et elle disparaît dans l'eau avec sa robe de mariée sur ces deux versets-là.
Ah oui.
Et Bresson, Monteverdi, Bernanos, j'avoue que ça laisse des traces.
C'est une trilogie indépassable, quelque chose comme ça. Parce que vous commencez à en parler, Alain Paquier, les trajectoires baroques, donc c'est le Festival international de musique de Sarrebourg, qui se déroulera du 8 au 12 juillet. Vous avez créé il y a combien de temps ce festival-là déjà?
Il y a 28 ans, et tout d'abord avec une histoire qui était un petit peu... je disais, quel était le créneau à prendre aujourd'hui? Il y a des festivals spécialisés sur tout. Moi, je sortais du Festival de Sainte. Bon, le message était passé, c'était généralisé. Et Sarrebourg n'a trouvé sa véritable vocation quand on l'a spécialisé autour de l'Amérique latine, notamment avec Gabriel Garrido, et que c'est devenu un peu la plateforme européenne pour la connaissance de tous ces répertoires. Et puis on a terminé cette aventure en Amérique latine il y a 2 ou 3 ans, et il fallait retrouver, je dirais, une autre histoire à raconter. C'est celle des pays du Nord. En fait, comme en Amérique latine, où on a d'une part la cartographie officielle moderne, et puis derrière, il y a bien d'autres choses. Tous les pays du Nord, qu'est-ce qu'on en sait, en dehors de l'affichage d'aujourd'hui? Et le passé, c'est un autre pays, quoi. Donc c'est le Nord.
D'accord. Vous êtes passé carrément de l'Amérique du Sud, j'ai bien compris. Quand je dis que vous êtes un voyageur, c'est pas pour rien, quand même, hein. Il y aura un ensemble présent lors de ces trajectoires baroques, c'est l'ensemble Grain de la Voix, absolument superbe, qui refermera tout cela.
Oh.
De quel siècle on finit par ne plus savoir, tant cette musique est étrange. Elle nous vient de l'ensemble de Boris Schmelzer, Grain de la Voix, et de ce disque intitulé Césena, des chansons pour les papes et les princes, des mercenaires. Oui, ça c'est très étrange. Et plus encore étrange, le programme qu'ils donneront donc en l'église de Hesse, dans le cadre de votre festival Alain Paquet, le vendredi 10 juillet, Les Larmes des Aveugles, Pierre Delarue, Agricola, Josquin, etc. Musicien fascinant, hein, Boris Schmelzer. Absolument.
Oui,
oui.
À premier abord, on est très intimidé, tellement la pensée de ce personnage est quand même complexe, intellectuel, je dirais, théorique, et le résultat musical, en réalité, est bouleversant. C'est ce qui compte.
France Musique. Vous avez répondu, Alain, au questionnaire de Marcel Proust, bien sûr. Vous avez choisi quelques réponses à me donner. Votre principal défaut, alors là, vous m'étonnez, je vous ai jamais vu comme ça. Vous dites vous-même le mauvais caractère. Vous avez mauvais caractère?
Ça m'est arrivé, oui.
Oui, mais non, moi je vous croyais super placide.
Bon.
Non.
No comment.
Donc vous arrivez à engueuler des gens, des fois, c'est ça? Ou vous engueulez vous-même, peut-être?
Oui, je... plus souvent moi que les autres.
Plus souvent vous-même, d'accord. Votre occupation préférée, travailler, dites-vous. Ça m'étonne pas, en revanche.
Ah oui, ça, j'en vois pas d'autre. Parce que c'est le sens de la vie, c'est de créer, faire rencontrer, et développer des choses. Et ça passe par le travail, mais c'est un plaisir invraisemblable.
Et certains vous diront que le travail est une malédiction, pas un plaisir.
Non, je trouve que c'était un des problèmes, c'est d'avoir un petit peu relié la notion de travail à la malédiction d'Adam. Ben tu travailleras la sueur de ton front. Mais j'adore suer. Bon, et puis faire suer les autres, c'est autre chose.
C'est encore une histoire. Mais pour de belles choses, quand même. C'est pour ça aussi.
Ben, j'espère, oui. Mais...
Quel serait votre plus grand malheur? Alors là, c'est lié à l'époque, ça. Être un homme politique.
Oui, alors attention, hein, parce que je les respecte, quel que soit leur bord politique d'ailleurs, je précise, à condition qu'il y ait une légitimité, et puis de toute façon, ce sont mes interlocuteurs naturels, mais ce que je trouve terrible et que j'aurais jamais voulu vivre, c'est de voir comment des gens qui sont dans la politique avec, lors de leurs utopies de jeunes, au fur et à mesure de leur croissance, ça devient du mercure, ça leur file entre les doigts, puis on arrive à ce qu'on voit.
C'est-à-dire un cynisme généralisé, c'est ça?
J'ai beaucoup de pitié pour eux, finalement.
En fait.
Puis je fais avec, comme tout le monde.
Vous dites ça parce que, si je comprends bien, vous avez pitié surtout pour les utopies qui vont mal rencontrer le principe de réalité. Ou qui ne tiennent pas avec le temps.
Bon.
Ouais. Bon. Votre auteur favori, vous me citez Hermann Broch. Vous n'avez pas envie de commenter?
Si.
Si.
C'est un livre découvert par la musique, par un compositeur du XXe siècle qui s'appelait Jean Baraquet. Immense compositeur, pas suffisamment connu, et qui avait entrepris un opéra qui devait durer 42 heures, appelé Le Temps Restitué. En fait, il n'a composé que 7 heures de cet opéra. Une grande cantate sur ce texte d'Hermann Broch, qui est une espèce de symphonie littéraire en 4 mouvements et où on voit un texte flamboyant qui est le plus beau texte baroque que j'ai jamais vue et qui est une espèce de synthèse du christianisme et du paganisme. C'est quelque chose qui pour moi a valeur d'universel tant dans la forme que dans l'expression que dans le fond. Voilà, donc pour moi c'est le livre le plus important que je connaisse.
Votre compositeur préféré, vous me citez Claudio Monteverdi, ça ne m'étonnera absolument pas. En revanche, votre opéra préféré, Wozzeck.
Oui.
Ouais.
Parce que la puissance des climats, la concision de Berg, notamment à la fin, après la grande passacaille, toute la scène finale, pour moi, c'est la quintessence du dramatisme réussi, comme la fin de Tosca aussi, on peut dire, mais cette œuvre est absolument incroyable dans l'orchestration, dans le travail sur Sprechgesang, qui est vraiment lyrique, et dans sa vérité dramatique.
Et humaine aussi.
Oui, et humaine.
Ville préférée, La Paz, en Bolivie. Ça, il faut l'avoir visité pour le trouver, bien évidemment, mais ça a été votre cas. Et une toute dernière chose que j'aime bien, parce que vous détestez par-dessus tout, Alain Paquier, l'imprécision.
Oui, j'essaye de lutter moi-même contre mes risques d'imprécision, mais il n'y a rien de pire.
Ouais.
Hein, voilà, donc, mais c'est un détail.
On va revenir à K617. Un souvenir d'Antoine Courtin. Quand je lui ai dit K617 à la Paquier, il m'a dit « Oh, il y a les Mozart ». Bah oui, il y a les Mozart. De la Clémence de Titus en transcription, bien sûr, pour le trio di bassetto qu'on entendait ici enregistré il y a une bonne dizaine d'années pour le label le K617. C'est Martin qui est à côté, mais je dirai dans quelques instants qui est Martin et pourquoi il est là. Enfin, vous le direz, Alain, qui faisait la remarque mozartienne d'ailleurs. Tiens, K617, d'où vient le titre de votre label, Alain Paquier?
Mais quand on l'a créé, toutes les muses étaient prises, les opus, il y avait un opus 11, machin. Et donc, il nous restait plus que Shelley. Et il se trouve qu'à cette époque-là, on travaillait beaucoup sur la renaissance de l'harmonica de verre inventée par Benjamin Franklin, sur tous ses répertoires, parce qu'il y a beaucoup de répertoires. Le troisième acte de La Femme sans ombre de Strauss, par exemple, il y a toute une grande partie d'harmonica de verre. Hein, ça va jusque-là. On travaillait beaucoup là-dessus. Et au moment de créer la belle, on s'est dit, bon, il y a quand même un Köchel qui est assez étrange, d'ailleurs, et pas très spectaculaire. C'est ce quintet avec harmonica de verre de Mozart. Donc le label est venu qu'à 617.
Pour ce clin d'œil-là, à l'harmonica de verre et au rêve qu'il nous donne aussi. Côté label, qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous faites un nouveau label, c'est ça? Ou qu'est-ce qui se passe?
Oui, absolument. Ben, K617, pour l'instant, continue à exister. On a plus de 250 titres.
Ah, quand même.
Oui, aujourd'hui. Et puis.
C'est-à-dire une dizaine par an à peu près depuis l'origine, hein, c'est ça.
Oui.
Comme ça.
Et puis, pour un certain nombre de raisons qui tiennent au milieu discographique, à ses réalités parfois dures aujourd'hui, dans le genre grand-mère, comme vous avez de grandes dents, vous savez, vous vous souvenez quand on vous racontait ça quand vous étiez petit.
Vous dire, il y a des méchants dans le milieu discographique, c'est ça, dans le milieu du disque.
Oh, des méchants ou des incapables, ouais, hein, ça c'est autre chose.
J'ai envie de bouffer les autres quand même, très bien.
Et il y en a partout.
Hein. Oui, oui, bien sûr. Bah, oui.
Et donc, pour l'instant, on m'accompagne, K617, qui est toujours notre propriété, bien sûr, d'un nouveau label qui s'appelle Les Chemins du Baroque.
D'accord.
Et dont le numéro 1 sera consacré à Caspar Forster avec les Traversées Baroques. Et puis le numéro 2 au Trondheim Baroque, fondé par Martin Valberg.
Ah bah ça justement, on en reconnaît dans un instant. Alors, c'est le numéro 1 qu'on va entendre là, dans la musique d'un certain Zelensky, c'est bien cela. Miroslav Zelensky, d'où ça nous sort, ça d'où ça crèche? Hein, Zelensky, c'est bien, je me trompe pas, hein, c'est le nouveau... C'est le nouveau compositeur du label, c'est ça?
Alors, non.
Non,
ce sera Forster de Danzig.
Ah oui, Zelensky, pardon, c'est le dernier K617,
c'est
pardon,
dernier,
excusez-moi.
Absolument.
Voilà. C'est pour ça que j'étais en train de me tromper là-dessus. On va entendre donc Les Traversées Baroques, dirigées par Étienne Meyer. La musique de Miroslav Zelensky, si je prononce correctement, c'était Les Traversées Baroques dirigées par Étienne Meyer, un très beau disque qui nous arrive donc, je rectifie, hein, sur le label K617 et c'est le dernier paru sur votre label Alain Paquier.
France Musique.
Il est midi 32, vous nous avez amené quelqu'un avec vous, Alain, que je salue, Martin Valberg, bonjour.
Bonjour.
Puisque vous l'avez choisi aujourd'hui comme étant votre co-invité, Alain, qui est ce monsieur Martin?
Alors, ce monsieur Martin a débarqué un beau jour à Sarrebourg, envoyé plus ou moins dans le contexte d'un colloque, enfin, il vous dira ça, avec la Sorbonne, alors ouais. Là, méfiance, hein, tout de suite.
Ah oui, l'université, je ne mets pas trop.
Bon, je fais attention quand même avec qui on fréquente dans ces milieux.
Ouais.
Et avec son travail sur la présence de la musique dans le roman des Lumières.
Et il est très universitaire, a priori. Hein.
Et il est venu immédiatement chez nous. On a fait un disque, mais je dirais, c'est presque à l'arraché. Hein. Ça s'est fait au dernier moment. Et voilà, il y a une amitié, une estime qui est née. Et puis surtout une admiration pour ce travail quand même, parce que voir un Norvégien qui nous apporte une telle somme de connaissances sur notre, un tel regard sur notre culture, c'est extraordinaire.
Quoi. Alors Martin Valberg, vous avez quel âge? Une trentaine d'années, c'est ça, même pas?
35.
35, voilà, c'est ça. Norvégien donc, mais ayant grandi beaucoup en France depuis vos années de lycée, m'a raconté tout à l'heure, et dans quel cadre?
Oui, je suis venu en France, j'avais 16 ans à l'époque, à Rouen, où il y a un lycée qui accueille des Norvégiens depuis 1918.
D'accord. Bon, et donc études au lycée, à l'université après, vous êtes musicien aussi.
Oui, je suis musicien, donc études au lycée, ensuite études en Norvège, et de violoncelle et aussi de lattre, et puis ensuite études de violoncelle baroque à Paris.
D'accord.
Et aussi travail de fac à côté, enfin je veux dire études...
Les deux ensemble quoi, musicien et musicologue à la fois, ce qui est tout à fait possible, bien évidemment. Votre ensemble donc, Trondheim Baroque, vous l'avez fondé vous?
Oui, c'est moi qui ai fondé avec mon collègue Erik Høsøyen, norvégien, théorbiste. Donc on a fondé cet ensemble de musique baroque à Trondheim, d'où le nom. Et c'était à la fois pour avoir un cadre pour essayer de jouer des musiques qu'on trouve, qui n'ont peut-être pas forcément été jouées, et aussi pour essayer de faire monter la musique baroque en Norvège, où la musique baroque est quand même moins connue qu'ici, je dirais.
D'accord. Donc ça veut dire que vous partagez maintenant entre la France et la Norvège? Je croyais que vous habitiez à Paris ou en France.
Je vis à Trondheim.
Vous vivez à Trondheim maintenant, d'accord.
Mais je viens quand même assez régulièrement ici.
Bon, alors ce qui vient aussi ici en France, c'est votre livre qui paraît au Classique Garnier juste ces semaines-ci, Martin Valberg, La scène de musique dans le roman du XVIIIe siècle. Alors pour le présenter en deux mots avant d'aller un petit peu plus avant, c'est donc un travail universitaire au départ, on l'aura bien compris, qui va rechercher à l'intérieur du roman du XVIIIe siècle, comme vous dites bien, la scène musicale, c'est-à-dire les apparitions de la musique, que ce soit sous la forme, par exemple, d'un concert, d'une leçon de musique ou autre chose comme ça.
Oui, alors l'idée m'est venue en fait lors d'un cours. J'avais un professeur extraordinaire à la Sorbonne où je venais en tant que petit étudiant norvégien Erasmus étranger.
Ouais.
Et j'avais ce professeur Michel Delon qui est un spécialiste du marquis de Sade. Et dans un de ses cours sur le marquis de Sade, il a fait un cours entier sur la harpe, l'instrument de la harpe dans le roman au XVIIIe siècle. Et j'ai tout de suite compris que là, il y avait un sujet immense qui n'avait pas vraiment été traité et qui me passionnait, qui consistait à voir toute cette présence musicale dans les romans. Et j'ai assez vite découvert qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas, qu'il y avait en fait pas mal de romans français du XVIIIe siècle qui contenaient des partitions.
Des partitions qui étaient mises dans le livre lui-même, c'est ça, hein?
Soit
imprimées.
Soit imprimées dans le livre, soit, et ça c'est magnifique, sur des feuilles qu'il faut replier comme ça. Il faut savoir que les livres de l'époque ne tiennent pas vraiment sur un pupitre. Avec la reliure de l'époque, ça se renferme très facilement. Alors, y a des partitions comme ça qui sont imprimées dans le livre, des fois dans des publications qui ne sont pas forcément dans le livre.
Mais qui sont liées aussi à la narration, c'est-à-dire qui sont liées à quelque chose que nous raconte le roman.
Voilà, c'est des romans où il y a des personnages. Alors ça, c'est un peu, il fallait trouver un peu au fur et à mesure comment ça se passait, parce que ce n'était pas tellement connu. Mais en fait, il se trouve que la plupart du temps, c'est dans l'histoire des personnages qui commencent à chanter. Et la chanson est imprimée comme un poème, apparaît comme un poème dans le texte. Et à côté, il y a souvent la musique. Donc,
et qu'on peut du coup chanter soi-même chez soi après avoir refermé le roman.
Voilà.
Une manière de le poursuivre d'une autre façon. Voilà. Alors, il se trouve que vous avez enregistré aussi quelques-unes des pièces en question. Vous nous en reparlerez juste après. Mais on va entendre ici la musique de Devienne. C'était comment son prénom déjà, Devienne? Je ne sais même plus. François Devienne,
oui,
c'est ça.
Hein, oui.
Le chant de Pedro. Rosa, ma, 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 Chant de Pedro de François de Vienne, c'est extrait aussi d'un roman, Gonsalve de Cordoue. Alors c'était le Trondheim baroque qui nous interprétait ceci avec la voix de Berit Norbakken Solset. Et ce disque-là, eh bien, il paraît chez vous sur votre nouveau label, Les Chemins du Baroque, hein, Alain Paquet. Ce sera donc le numéro 1, comme vous nous disiez tout à l'heure, sous le titre Le roman des Lumières, chanson donc dans le roman français. Ça poursuit votre ouvrage, Martin Valberg, sur la scène de musique. Alors en deux mots, peut-être, est-ce qu'on peut dire sur l'extrait qu'on vient d'entendre là, à quel moment vient ce chant de Pedro? Est-ce que dans le roman en question, et c'est un roman de qui d'ailleurs, tiens?
C'est un roman de Florian, c'est un roman pastoral avec une histoire invraisemblable, avec plein de complications, des choses qui se passent tout le temps, et ça se passe en Espagne et dans le nord, je pense que c'est au Maroc, dans le nord de l'Afrique, et le personnage principal est emprisonné chez les Maghrébins, et il peut pas sortir, et il entend Pedro qui chante en dehors. D'accord. Des murailles. Et c'est souvent la situation des chansons, ça permet aux gens de s'écouter, les gens qui ne se connaissent pas, et comme ça, ça permet souvent dans les romans d'avoir des situations de rencontres assez invraisemblables, mais qui permettent à l'histoire d'avancer.
Ouais. Alors, ce que vous nous dites dans ce livre-là aussi, c'est que c'est pas simplement, je veux dire, une fois de temps en temps, qu'on voit la musique apparaître, c'est quasiment un lieu commun, finalement, du roman au XVIIIe siècle, l'apparition de la musique, comme c'était presque, pour certains, un passage obligé.
Je pense peut-être qu'il faut pas non plus exagérer. Il y a plein de romans sans musique, mais il y a quand même un certain nombre assez étonnant. J'en ai trouvé une quarantaine. Mmh. Donc il y en a quand même. C'est un phénomène qui a bel et bien existé, qui avait son importance et qu'on trouve pas dans les livres scolaires ou dans les manuels, parce que je sais pas pourquoi, mais je pense que les gens on a un peu peur de ça,
ouais, parce qu'il y a une séparation
en tant qu'universitaire, on connaît pas, voilà. Et je pense que c'est assez passionnant, parce que ça faisait partie, vous savez, le roman en quelque sorte c'est quand même constitué au XVIIIe siècle, c'est l'époque avant les grands auteurs français comme Balzac ou Zola. Et c'est une époque quand même où il y a à la fois le roman était un genre qui n'avait pas le prestige du théâtre. Voltaire n'était pas du tout premièrement connu pour sa fiction en prose. Il était connu en tant qu'homme de théâtre. Et donc c'était aussi un lieu où les gens, où il n'y avait pas trop de règles, où il y avait la possibilité d'invention.
Et je pense avec que une grosse production en même temps, c'est ça.
Voilà, et je pense que le phénomène de la musique comme ça dans le roman, c'est un exemple assez étonnant de quelque chose qui se constitue, qui les gens font, ils essayent des choses nouvelles, et on voit comme ça apparaître ce phénomène qui a quand même continué à exister, mais qui était quand même surtout un phénomène d'expérimentation assez passionnant.
C'est ça, comme voilà. Si finalement ils avaient trouvé ou inventé le multimédia, enfin une forme de multimédia, c'est ça, le texte
dialoguant avec autre chose. Voilà, c'est ça. Et les gens, des fois j'utilise l'expression, enfin c'est presque comme si on avait un iPod avec soi.
C'est ça.
Le roman, alors faut savoir que le roman était très petit. Enfin, souvent les livres s'imprimaient dans des formats comme ça, enfin de petits livres qu'on pouvait mettre dans la poche ou emmener avec soi, et avec les illustrations qui étaient imprimées dans les livres et avec la musique qui était là, il y avait quand même une dimension multimédia. Et il faut pas trop le dire aux historiens de l'art, mais moi je pense que la musique qui se trouve dans le roman pour moi, c'est quelque chose de plus impressionnant que les images, parce que les images restent quand même des choses qui sont imprimées sans couleur, c'est pas comme des peintures, c'est des gravures assez rudimentaires, il faut quand même le dire. Alors que la musique, quand elle est jouée par des instruments, elle est là dans toute sa dimension sonore, comme une vraie peinture en couleur. Mmh. Et il y a aussi là, je pense, une importance, c'est un phénomène qui n'est pas négligeable.
Celles qui sont enregistrées de chansons dans ce disque, justement, de votre Trondheim baroque, c'est donc des chansons que vous avez trouvées vous-même dans des romans de l'époque, c'est ça ?
Oui, alors je suis passé dans pas mal de bibliothèques. Ouais. Je me suis servi d'un petit truc que j'ai appris par un de mes collègues, c'est de chercher les côtes voisines dans les bibliothèques. Vous savez, dans les bibliothèques, dans les grandes bibliothèques, on peut pas feuilleter comme ça les livres. Les livres sont dans les magazines. Alors, si on trouve quelque chose, il faut demander les côtes, c'est-à-dire les marques qui montrent où sont les livres dans les bibliothèques, qui sont à côté. Parce que souvent, les choses pareilles sont classées ensemble. Et comme ça, c'est le petit secret qui m'a permis de trouver pas mal de choses qui n'étaient pas vraiment connues.
Ah, on va écouter ici justement de la musique de Philidor qu'on connaît lui, mais peut-être pas pour ce heur et malheur du roman Histoire amoureuse de Pierre Lelong. Bon. Malheur, une chanson signée d'Anican Philidor pour l'histoire amoureuse de Pierre Lelong. De qui est ce roman, pardon, redites-moi ça, Martin Valberg ?
De Biardon de Sauvigny.
D'accord, si je ne connais pas, je n'ai pas de honte à avoir, ça va, personne ne connaît ça. Hein,
non, ça va.
Et Philidor avait écrit...
C'est un peu connaissé quand même.
Ah bon ? Philidor avait écrit exprès pour lui cette chanson,
pour le roman.
C'est ça, d'accord.
Oui, il a composé 6 romances, donc pour ce roman, publié avec le roman.
D'accord.
Voilà. En 1765.
Alors, le livre, pour découvrir tout cela, la scène de musique dans le roman du XVIIIe siècle, c'est au classique Garnier, signé Martin Valberg, vous l'aurez compris. Et le prochain concert de votre Trondheim baroque, qu'on entendait d'ailleurs ici sur ce disque, ce sera Les Victoires de Saint-Michel, dirigé par Sigiswald Kuijken, d'ailleurs, tiens, qui vous prêtait votre ensemble, hein, Martin.
Oui, alors, on a déjà travaillé plusieurs fois avec Sigiswald, mais en Norvège.
Ouais.
Et c'est. On est très heureux de travailler avec lui. C'est vraiment très 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 intéressant. C'est un personnage quand même très important. Ouais. Et donc on est très heureux aussi.
Et puis, enfin, formidable, voilà, tout simplement. Bon, ce sera donc dans le cadre des trajectoires baroques de la Baltique à l'Adriatique pour cette année, le festival de musique de Sarrebourg d'Alain Paquier. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fond dans tout ça, Alain Paquier ? Vous, qu'est-ce qui vous a vraiment titillé dans ce que nous propose Martin Valberg ?
Ben, c'est déjà l'étonnement, cette espèce de pressentiment. Vous parliez d'outils virtuels tout à l'heure. Ça, c'est très, très intéressant parce que on a plutôt tendance d'abord à considérer un peu cette époque et puis ces expressions comme un petit peu désuètes. Oui. Je veux dire, rien que les titres, voilà, et les intrigues.
Le côté romance, hein.
Bon, oui, exactement. Et d'un seul coup, quand on les voit avec l'unité que propose Martin dans son regard, on se dit, il y a autre chose. Fatalement, il y a, ça a plus de force que ce qu'on imagine. Et on ne voit plus ça de façon dissociée en disant la musique est faible, la littérature est faible. Non, il y a quelque chose d'important. Je crois que c'est comme ça. Et qu'on a besoin de le voir et que le regard de Martin Valberg est important pour nous.
C'est une période aussi, tout cela, vous parliez tout à l'heure hors micro de l'opéra comique, c'est vrai qu'on est une sorte de période où les arts essaient de se croiser, les arts du spectacle jouent à la fois du littéraire, du théâtral, du musical, etc. Et là on voit bien aussi un roman qui joue d'autre chose que de la simple littérature.
Oui, tout à fait.
Ouais. Surprenant tout cela quand même. Tristes après, pourquoi j'ai envie d'écouter ça? Tout simplement parce que vous en parlez beaucoup. Martin Valberg, on a l'impression que c'est une sorte, cet air célèbre de Rameau, hein, le truc qui revient à travers différents romans, comme finalement un tube qui persiste avec le temps, comme on parlerait dans les romans d'aujourd'hui de je ne sais quel tube de Claude François.
Oui, alors c'est surtout dans La Religieuse de Diderot que Suzanne joue cette musique de, enfin, au clavecin, ouais. Et elle chante. Et moi je trouve que c'est assez... on voit dans les romans de Diderot, c'est presque comme un générique de film. C'est une musique de film qui accompagne la lecture et, ouais. Et je pense qu'il faut s'imaginer des lecteurs qui connaissaient cette musique et qui à la lecture, parce qu'on voit très bien que les choix Diderot pour les œuvres qu'il cite ou que les gens jouent dans la fiction, ce sont des choix très très significatifs.
Alors que voilà. Quand on le lit aujourd'hui, très souvent, sauf si on est mélomane soi-même, on se rend pas du tout compte. On dit tristes après, qu'est-ce que c'est que ça?
Voilà.
Alors que vous nous dites bien, ça participe finalement de l'ouvrage.
Oui, moi je pense que c'est important de voir ça. Et il faut quand même avoir une certaine culture musicale. Alors aujourd'hui, on peut heureusement écouter les disques. Mmh. Donc d'où l'intérêt de faire ce genre de projet. Et je pense qu'il faut, on a du mal, je pense, à imaginer aujourd'hui comment les gens vivaient avec la musique à cette époque. Mmh. Comment les spectacles, une sortie à l'époque, c'était une sortie au théâtre, une sortie au spectacle, et même à la Comédie Française, même dans tous les théâtres, il y avait de la musique. Mmh. Il y avait toujours de la musique et c'était quelque chose que les gens connaissaient. Et les tubes étaient publiés dans des, enfin, comme vous le savez, donc les gens connaissaient bien, et je pense que c'est
une sorte d'accompagnement de la vie sociale,
voilà,
en fait.
dont il faut prendre conscience.
Mmh. On va écouter ici ce Tristes après chanté par Véronique Jans.
Thank you.
Tristes Après, extrait de Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau. C'était Véronique Gens avec Christophe Rousset et ses talents lyriques. Je suis bien tombé en choisissant cet extrait-là. Hein, Martin Valberg, vous connaissez bien ces Tristes Après. Pour quelle raison?
Oui, j'avais participé il y a quelques années à l'enregistrement de... au tournage du film de Sofia Coppola.
Marie-Antoinette.
Voilà. D'accord. Et on avait entendu mille fois.
Vous y participez comme quoi? Comme acteur ou comme musicien?
Comme musicien-acteur avec l'orchestre de Spinozzi. Et à cause de mille problèmes techniques et de gens qui n'écoutaient pas les messages du régisseur, on a dû tourner beaucoup, beaucoup de fois cette scène.
D'accord. Donc, vous connaissez Tristes Après par cœur. Ils ne supportent plus en peinture, les Tristes Après. C'est ça la vérité. Alain Paquier, l'Amérique du Sud, est-ce que vous y retournez toujours ou c'est fini maintenant? Vous êtes définitivement passé vers le Nord?
Non, maintenant c'est devenu un rêve par manque de temps. Oui, j'y retournerai bien évidemment. Mais je dirais que ce sont plutôt les Latinos qui ont pris l'habitude de venir nous voir maintenant régulièrement. Mais ils sont en possession de tous leurs moyens techniques, ça y est. Mmh. Ce sont des ensembles magnifiques. Donc on aura les gamins boliviens en octobre, les Cubains d'Ars Longa presque tout le mois de décembre, tout va bien. En revanche, c'est fou ce qu'on a appris avec eux, notamment peut-être comment faire la musique plus simplement, je veux dire dans son approche pour les jeunes. Mmh. Et ça nous a tellement marqué qu'un des aspects les plus importants de notre action en Lorraine aujourd'hui et qui se développe à la fois dans le domaine de la musique baroque. Avec le Vêpres, le Monteverdi qu'on va préparer, mais dans le domaine d'autres musiques. Voilà, c'est cette espèce de simplicité d'approche qui ne nie aucun de nos systèmes d'enseignement, mais qui permet à 120, 130 jeunes ou adolescents de
jouer de la musique. Ouais. Très bien. Merci en tout cas à vous. Je vous rappelle du 8 au 12 juillet le Festival de musique de Sarrebourg, où on vous retrouvera à la paquet avec tous vos musiciens. Cette émission a été préparée par Aurélie Moreau, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Alexandre Billard et Sophie Salio-Marie.